Vous écoutez RFI, il est 23h en temps universel, 19h à Washington. Lors d'un nouveau journal avec vous, Simon Bourtembourg. Bonsoir Simon.
Bonsoir Nemo, bonsoir à tous. Donald Trump ne croit pas au retrait de Joe Biden à 4 mois de la présidentielle. L'éventualité serait pourtant évoquée dans le camp démocrate au lendemain du débat difficile pour le président américain. Joe Biden qui a reçu le soutien de Barack Obama, il assure qu'il est prêt pour un second mandat. Une dizaine d'humanitaires portés disparus au Yémen. Ils ont été arrêtés par les Houthis. Les Nations Unies font part de leurs préoccupations et réclament la libération immédiate de ces otages. Dans cette édition, nous parlerons également du fructueux business de l'arnaque en ligne en Asie du Sud-Est. Et puis du rugby également à la une. 23e titre en top 14 pour le Stade Toulousain. Trophée de champion de France conservé pour les Rouges et Noirs qui ont écrasé l'Union Bordeaux-Bègles. L'état de santé de Joe Biden à la une de tous les médias américains. Le prestigieux New York Times a appelé d'ailleurs il y a quelques minutes le président à se retirer de la course à la Maison-Blanche. Si la question autour des capacités de Joe Biden à mener à bien un deuxième mandat animait déjà la campagne, elles inquiètent désormais même au sein du camp démocrate. Jeudi soir, dans son duel télévisé face à Donald Trump, le président américain est apparu en difficulté, parfois même désorienté. « Je ne débat pas aussi bien qu'autrefois », a-t-il reconnu avant d'assurer tout de même être d'aplomb pour rester à la Maison-Blanche. Si les démocrates de 81 ans peuvent compter sur le soutien notamment de Barack Obama, certains membres du parti présidentiel évoquent publiquement un plan B. Mais dans ce cas, qui pourrait être au pied levé, remplacer Joe Biden? Les précisions d'Abla Junaidi.
Comme à chaque fois que la santé déclinante de Joe Biden fait la une, les esprits s'agitent pour imaginer un autre candidat à sa place. À nouveau, les noms du gouverneur du Maryland, Wes Moore, de la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, 45 et 52 ans respectivement, sont évoqués. Et bien sûr, la vice-présidente Kamala Harris est citée comme possible alternative, même si sa cote de popularité abyssale renvoie le parti à ce triste constat. Les possibilités sont limitées. Deux poids lourds démocrates bien placés, eux, pour concourir en 2028. Le gouverneur de l'Illinois, J.P. Pritzker, et surtout celui de Californie, Gavin Newsom, ont préféré redire leur loyauté à Joe Biden hier. Estime-t-il qu'il est déjà trop tard à 1 mois et demi de la convention nationale du parti? Difficile en tout cas pour les potentiels candidats alternatifs d'afficher leur ambition tant que Joe Biden ne s'est pas officiellement retiré. C'est sur son nom, présenté comme unique alternative face au retour de Trump, qu'il a remporté les primaires démocrates et le soutien financier au parti. Voilà aussi pourquoi la réaction des donateurs sera particulièrement scrutée après la piètre performance du président sortant.
Abla Junaidi, alors que Donald Trump a assuré hier soir ne pas croire à la possibilité que son rival suspende sa candidature. Toujours aux États-Unis, la question de l'avortement est l'un des thèmes clés dans la campagne pour la présidentielle. Et dans ce contexte, la Cour suprême de l'État de l'Iowa a donné son feu vert à une loi interdisant la plupart des avortements dès la 6e semaine de grossesse, soit avant que la majorité des femmes ne sachent qu'elles sont enceintes. Une victoire pour les élus républicains après l'annulation en 2022 par la Cour suprême des États-Unis de la garantie fédérale de l'IVG. La jetée américaine destinée à décharger de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza a à nouveau été retirée en raison de la houle. C'est la 3e fois qu'elle a été détachée du rivage en raison des conditions météorologiques. Hier, des opérations israéliennes contre le Hamas à Gaza ont poussé des dizaines de milliers de personnes à la fuite. Je vous le disais en titre, on revient dans cette édition sur la disparition de dizaines d'humanitaires au Yémen. Employés de l'ONU et membres de la société civile, ils ont été arrêtés par les Houthis, les milices qui contrôlent le nord du pays, dont la capitale Sanaa. Les Nations Unies ont fait part de leurs préoccupations et réclament la libération immédiate de ces otages. Quant à l'ONG Human Rights Watch, elle vient de sortir une enquête sur ce qu'elle décrit comme des disparitions forcées. Muriel Paradon.
Human Rights Watch a interrogé les familles des personnes arrêtées par les Houthis. Et le mode opératoire est toujours le même, selon Ahmed Benchemsi, porte-parole de l'ONG.
Vous aviez une brigade de soldats en armes à côté qui se présentaient soit au domicile, soit au bureau de la personne concernée. Et ils arrêtaient le maître ou la maîtresse des lieux. Ils embarquaient tout ce qu'ils trouvaient, hein, du cash, de l'argent. Et surtout, ils prenaient aussi tout ce qui était ordinateur, disque dur, documentation, des espèces de preuves qui tiennent n'est pas la route évidemment, mais qui leur suffisent, de collusion avec des intérêts étrangers.
Les Houthis affirment avoir démantelé un réseau d'espionnage américano-israélien qui opérerait sous couvert d'organisations humanitaires, une accusation qualifiée de scandaleuse par l'ONU. Les milices Houthis, soutenues par l'Iran, utiliseraient ces enlèvements comme moyen de pression dans la guerre qui les oppose au gouvernement yéménite depuis 10 ans. Un conflit meurtrier qui a eu des conséquences désastreuses pour la population, soumise à la pauvreté, la malnutrition et aux épidémies de choléra. Les humanitaires craignent que l'arrestation de leur personnel n'entrave encore plus l'aide apportée aux plus vulnérables.
À des explications signées Muriel Paradon. Les Iraniens votaient ce vendredi pour choisir leur nouveau président. À des élections anticipées après la mort le mois dernier du président Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. Pour ce premier scrutin depuis les législatives, l'abstention pourrait une nouvelle fois être importante. Les résultats officiels sont attendus au plus tard dimanche, mais des estimations devraient être publiées dans les prochaines heures. En France, cette fois, la campagne pour les législatives est terminée. Les quelques 4000 candidats ne peuvent plus s'exprimer publiquement d'ici le premier tour du scrutin ce dimanche. Le Rassemblement national est toujours donné grand favori, crédité de 35% des intentions de vote, plus de 10 points devant le nouveau Front populaire. Des millions d'euros de butin pour des arnaqueurs postés derrière leurs ordinateurs. Le business de l'arnaque en ligne est en plein essor en Asie du Sud-Est. Une centaine de Taïwanais impliqués dans une affaire de cybercriminalité vient d'être arrêtés sur l'île indonésienne de Bali. Ils sont accusés d'avoir mené des escroqueries en ligne qui ciblaient des Malaisiens. Les précisions d'Eike Schmidt.
Des détenus en gilet orange fluo, le dos tourné vers les caméras de télévision. Une valise pleine de téléphones mobiles et des ordinateurs exposé sur une table. La police a savoureusement mis en scène son coup de filet réussi contre le crime organisé. Les 12 femmes et 91 hommes arrêtés dans une villa luxueuse sont soupçonnés d'appartenir à un réseau d'arnaques en ligne, un fléau qui gangrène l'Asie du Sud-Est depuis la pandémie du Covid. Les suspects, tous de nationalité taïwanaise, auraient escroqué des Malaisiens. Dans un rapport publié en janvier dernier, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime avaient déjà alerté sur l'explosion de la cybercriminalité dans le triangle d'or entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande. Des faux sites de crypto-monnaies ou de rencontres, des jeux en ligne et des casinos servant au blanchiment d'argent, souvent contrôlés par des mafias chinoises, ont d'abord visé la Chine. Aujourd'hui, mieux équipés et profitant de l'intelligence artificielle, les escrocs trouvent leurs victimes dans le monde entier.
Eike Schmidt. Et puis du sport, et une fois n'est pas coutume, du rugby avec le 23e titre en top 14 pour le Stade Toulousain. Un trophée de champion de France conservé pour les Rouges et Noirs qui se sont imposés face à l'Union Bordeaux-Bègles sur le score sans appel de 59-3. Record de points donc largement battu hier soir sur la pelouse du Vélodrome à Marseille. Les Toulousains bouclent ainsi une saison pleine où ils ont également soulevé la Champions Cup. Écoutez la réaction du capitaine du 15 de France Antoine Dupont à l'issue d'un match qu'il ne voyait pas gagner d'avance.
Non, évidemment que non. On savait les qualités de cette équipe de Bordeaux qui, malgré le fait qu'ils ne soient pas forcément expérimentés de ces finales, elle a donné tout ce qu'ils avaient, surtout sur l'entame de match. On avait ciblé cette partie-là du match et il s'avère qu'on a vraiment très bien débuté, je pense, dans l'intensité, dans le calme aussi, dans la maîtrise. On avait une très bonne défense, on a récolté des pénalités. Et surtout, on a pris vite le score et après, c'est toujours compliqué de revenir dans des matchs comme ça, dans des matchs de phase finale quand on est mené au score. On est encore un groupe jeune, mais on commence à avoir un peu de bouteille, quelques cheveux blancs pour certains. Et l'expérience de ce genre de match, et je pense que c'est ce qui nous a guidés, ce qui nous a porté aujourd'hui. C'est-à-dire une envie, un enthousiasme énorme, mais aussi, comme je disais, un froid, un calme qui, on le sait, nous permet de gagner les matchs de ce niveau. Et je pense qu'on l'a montré sur l'entame de match qui est quasi parfaite.
Antoine Dupont qui met désormais le cap sur les Jeux Olympiques puisqu'il a rejoint pour l'occasion l'équipe de France de rugby à 7. Sport toujours. Et ce samedi, le 111e Tour de France cycliste s'élancera depuis Florence. Pour la première fois, la grande boucle partira donc depuis l'Italie. Au bout de 21 étapes, le peloton franchira la ligne d'arrivée finale à Nice sur la Côte d'Azur. C'est une première aussi. L'arrivée se fait habituellement sur les Champs-Élysées à Paris. RFI, il est 1h bientôt passée de 10 minutes ici à Paris. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde.